Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie pour le 230e numéro de votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. La première quinzaine de mai, comme chaque année, marque la fin de plusieurs saisons de concerts. Les Clés de Saint-Pierre ont déjà baissé le rideau en avril. Les Arts Renaissants ont fermé boutique en beauté il y a une semaine avec le Concert des Nations de Jordi Savall. Lors d'une soirée qui a fait quasi salle comble au Théâtre de la Cité, nous allons y revenir. Le dernier concert de Toulouse Guitare a lieu ce dimanche à la chapelle des Carmélites, mais d'autres saisons sont toujours en cours, comme celle de l'Orchestre National du Capitole, des Grands Interprètes et de l'Opéra National du Capitole. Il y a donc encore matière à alimenter le sommaire de cette émission d'ici début juillet, d'autant plus que la période des festivals approche à grands pas. Pour vous présenter ces événements musicaux, j'ai une nouvelle fois invité Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. C'est avec Serge que nous allons tout de suite revenir sur l'actualité musicale récente. Voici notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Serge, nous allons commencer avec un concert auquel vous avez assisté le 27 avril et sur lequel vous teniez absolument à dire un mot. Il a été donné dans le cadre de la pause musicale, cette saison qui existe depuis longtemps maintenant à Toulouse et qui présente des concerts gratuits, je le précise, les jeudis à 12h30 à la salle du Sénéchal. Et le 27 avril, c'est le quatuor Les Anges Hantés qui s'y produisait. Une formation à la composition peu commune parce qu'il s'agit d'un quatuor de clarinette.
Oui, absolument. Alors, pour ma part, je crois que c'était la première fois qu'il participait à ce moment de partage organisé par la mairie de Toulouse, hein, concert gratuit d'une heure à peu près de musique. Et donc, les quatre compères sont arrivés. Alors, les quatre compères qui composent ce quatuor enchanté, c'est quand même un petit coup de génie d'avoir imaginé
un
titre. Ils
ont trouvé le nom, effectivement, de leur formation.
Il fallait le trouver. Alors, il faut quand même préciser que l'anche, c'est cette petite languette de bois, souvent, qui est utilisée dans certains bois, comme le hautbois, la clarinette, le basson, etc. Donc là, en l'occurrence, le quatuor est composé de Nicolas Châtelain et Sarah Lefebvre, tous deux clarinettes, François Pascal qui joue du cor de basset et Élise Marre de la clarinette basse. Et donc c'est un quatuor qui possède un répertoire vraiment d'une grande diversité et qui joue essentiellement, mais pas seulement, mais essentiellement des transcriptions, parce que des œuvres originales pour quatuor de clarinette, elles sont rarissimes. Hein. Donc, ils transposent, ils arrangent, avec beaucoup de talent, je dois dire, des œuvres pour, en général, quatuor à cordes. Et c'est par un quatuor à cordes que leur concert a commencé. Le quatuor à cordes en fa mineur, l'opus 18 numéro 1, le premier quatuor de Beethoven, des 16 quatuors que Beethoven a composés durant toute sa carrière. Et donc, ils ont joué les deux premiers mouvements, l'Allegro con brio et puis l'Adagio affettuoso ed appassionato. Et là, vraiment, pour ma part, j'ai été ébloui, je dois le dire, par la virtuosité que déploie la première clarinette. J'allais dire le premier violon. Vous voyez, c'est un peu ça. Et c'est vrai que dans ce que joue le premier violon, c'est un peu coton, hein, sur le plan virtuose. Et là, vraiment, le musicien fait preuve d'un sens des nuances, d'un choix de phrasé excellent, avec un adagio qui suit, plein de poésie et de nostalgie. Donc c'était vraiment un très beau moment. Ensuite, c'était l'œuvre originale, écrite pour quatuor de clarinette, à la commande du quatuor enchanté d'ailleurs, par le compositeur suisse Richard Dubugnon. Et il a écrit donc un quatuor qu'il a intitulé « Lettre à l'immortel bien-aimé ». Alors on voit
à qui
il fait allusion, évidemment à Beethoven, puisqu'on a retrouvé dans le courrier après la mort de Beethoven, des lettres destinées à une certaine femme dont on n'a pas...
Une mystérieuse bien-aimée.
Ah oui. Il y a des tas d'hypothèses, mais on n'est sûr de rien. Et donc Richard Dubugnon a composé une œuvre pas seulement musical, mais également littéraire, puisqu'il s'agit en fait d'un mélodrame. Le mélodrame, c'est quand alterne des paroles et de la musique. Et là, il associe à la musique une déclamation de ses lettres. Alors, ces textes ont été enregistrés par le Quatuor et par Didier Sandre, le lecteur. Mais là ils n'ont donné que la musique, les deux premières lettres d'ailleurs, sur les trois que compte l'intégrale, et vraiment avec un langage tout à fait actuel, hein, et très expressif en même temps. Et bon, c'était vraiment une découverte intéressante. Et enfin, le concert s'est refermé sur un autre quatuor à cordes, donc transformé pour quatuor de clarinette par Laurent Arandel, c'est le transcripteur. Et c'est un quatuor de Fanny Mendelssohn, la sœur du grand Félix. Et donc, les musiciens ont tenu à rendre hommage aux compositrices en général à travers Fanny Mendelssohn. D'ailleurs, le titre de leur CD, c'est Fanny M. Les auditeurs intéressés, vraiment, je leur conseille beaucoup d'écouter ce CD, cet album discographique qu'ils ont enregistré récemment. Et donc, c'est une belle distribution d'œuvres. Et là, on a eu le premier et le quatrième volet de ce quatuor, en quelque sorte. Alors, avec à la fois l'éloquence, de la volubilité. Ça a été là aussi un très beau moment. Ils ont recueilli vraiment une ovation incroyable, légitime, de la part du public, parce que c'était une belle, vraiment très belle prestation. Ils ont même joué un bis, et ce bis, c'était la transcription d'un lied de Fanny Mendelssohn, Die Mainacht, c'est-à-dire la nuit de mai. Donc ça finissait avec une poésie magnifique.
Bel hommage à la compositrice, elle-même sœur du très grand compositeur Félix Mendelssohn. Alors je crois que Les Enchantés s'étaient produits déjà à Toulouse dans le cadre du Festival Toulouse d'été,
oui,
à l'invitation d'Alain Lacroix.
Crois, oui.
Donc c'était pas tout à fait une nouveauté à Toulouse, mais en tout cas, bon, on était bien contents de les revoir de nouveau et on espère les revoir d'autres fois encore dans le cadre d'autres saisons. Voici un extrait du Quatuor Opus 18 numéro 1 de Beethoven, dans la version arrangée et interprétée par Les Enchantés. Il s'agit du troisième mouvement, le scherzo. Thank you. Le scherzo du Quatuor opus 18 numéro 1 de Beethoven dans la version arrangée et interprétée par les Anges Hantés, une des pièces qu'ils ont données le 27 avril. Salut Sénéchal, et comme je vous l'ai rappelé en début d'émission, le dernier rendez-vous de la saison des Arts Renaissants a eu lieu lui mardi 2 mai au Théâtre de la Cité, ce qui était déjà exceptionnel en soi puisqu'il est rare que le Centre Dramatique National Toulousain accueille des concerts. Ce qui était exceptionnel aussi, c'est qu'il était donné par Jordi Savall et son Concert des Nations avec un récitant de luxe, l'écrivain Pascal Quignard. Et pourquoi tout ce joli monde était réuni ce soir-là, Serge ? Eh bien, parce que le programme était dédié essentiellement à des musiques de la bande originale du film « Tous les matins du monde ».
Et oui, parce qu'il s'agissait pour ce concert d'un double anniversaire, en fait. Le 30e anniversaire de la sortie du film d'Alain Corneau et le 40e anniversaire des Arts Renaissants, ce qui était vraiment l'occasion de
faire une fête. Hein.
De faire la fête. Et ça a été la fête grâce à Jordi Savall dans une forme éblouissante, donc avec son Concert des Nations, la partie surtout corde hein, du Concert des Nations et clavecin, hein, puisqu'il y avait d'une part au violon Manfred Krémar, à la flûte traversière Charles Zéblé, puis Philippe Pierlot à la basse de viol à 7 cordes, Xavier Diaz-Latorre au théorbe et à la guitare, guitare baroque, et puis au clavecin, rien moins que Pirantaï, qui est tout de même un grand musicien d'une famille de musiciens que l'on apprécie, que l'on aime beaucoup.
Et d'une famille d'artistes.
D'artistes même, oui, le père.
Le père était un grand peintre.
Grand peintre. Très beau moment, donc avec effectivement la venue de Pascal Quignard, qui a lu quelques extraits de son ouvrage,
roman,
puisque son roman est à l'origine de toute cette aventure musicale. Et donc, on a eu droit à une collection de pièces tirées donc, de la bande originale du film. Hein. Mais ça s'est ouvert par la solennité familière que l'on connaît de Jean-Baptiste Lully dans sa suite pour Le Bourgeois Gentilhomme. Hein. Alors ça, c'est vraiment très solennel, avec cette espèce de solennité, mais à laquelle on est maintenant bien habitué. Et puis l'essentiel du programme était partagé entre des œuvres de Monsieur de Sainte-Colombe, le père, et Marin Marais, son élève. Donc il y avait
Que l'essentiel de l'intrigue du film, c'est la relation entre Sainte-Colombe et Marin Marais, incarné par Marielle pour l'un, Jean-Pierre Marielle, et Gérard Depardieu pour l'autre.
Voilà, exactement. Donc vraiment, on a eu droit à cette succession de pièces très expressives, avec en particulier les pièces pour viol, évidemment, qui sont surtout jouées à la fois par Jordi Savall, mais également par Philippe Pierlot, puisqu'il y avait d'abord un concert à deux viols égales avec comme titre Le Retour, plein d'émotions, c'est ce duo. Et puis il y avait juste auparavant la mort qui transparaît dans la pièce qui s'appelle Les Pleurs. C'est la mort de Madame de Sainte-Colombe, donc l'épouse du compositeur. Et ensuite, il a également donné un deuxième concert à deux viols égales qui s'appelle Les Regrets. Donc on voit quand même qu'on est dans la nostalgie hein, la plus profonde au cours de ce concert, avec Les Regrets, Carillon, Appel de Caron, Les Pleurs, Joie des Élysées, qui était d'ailleurs présenté par Jordi Savall lui-même. Il a présenté les divers mouvements de ses pièces. Et puis alors il y a une pièce qui a attiré une ovation, mais debout, pour la virtuosité de Jordi Savall, c'était les Folies d'Espagne. Une pièce de Marin Marais. Alors, Folie d'Espagne, ça a été repris par des tas de compositeurs à l'époque. Et là, c'était avec viol, clavecin et théorbe. Et dans ces couplets de Folie d'Espagne, il y a une pièce d'une virtuosité digitale impressionnante. Et là, Jordi Savall était très à l'aise à jouer ça de manière éclatante. Vraiment, le public l'a même interrompu parce que tellement c'était éblouissant. Et puis, on a eu quelques éléments de François Couperin avec un petit extrait des concerts royaux joués par l'ensemble des musiciens. Et puis pour terminer le programme, il y a eu donc de Marin Marais une pièce célèbre, hein, la sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont de Paris, qui est une pièce vraiment importante hein, et qui se prolonge avec de la gamme et autres morceaux, la symphonie numéro 3, ça s'appelle exactement, de Marin Marais, avec cette sonnerie magnifique hein, qui évoque les cloches de l'église donc, qui trônaient sur le mont Sainte-Geneviève à Paris. toutes ces pièces ont été entrecoupées de textes lus par Pascal Quignard, hein, avec beaucoup d'authenticité, puisque c'est lui qui les a écrites. Mais au tout début, il avait quand même trouvé nécessaire de décrire l'arrivée de tout le personnel pour filmer, pour enregistrer le film et sa musique. Et là, c'était apparemment, tel qu'il le décrit, une joyeuse pagaille. Hein. Et donc, ça a été un bon moment. Et puis alors, ils ont été tellement applaudis qu'il y a eu, d'une part, ils ont joué en bis un tambourin de Rameau, Jean-Philippe Rameau, et puis une pièce qui était une improvisation sur un morceau musical qui célébrait la naissance du roi Louis XIII. Voilà ce que nous a annoncé Jordi Savall. Et donc, ils ont terminé ça. Mais les applaudissements ont continué pendant très longtemps et ils auraient pu encore jouer de nombreux bis que le public n'aurait pas voulu sortir de la salle. Ça a été vraiment un grand moment.
Jordi Savall, on le voit tous les ans à Toulouse, pas dire que ce soit une rareté.
Non.
Mais en fait, ce programme Tous les matins du monde, évidemment tout le monde y est très attaché parce que c'est ce qui l'a rendu célèbre auprès du grand public.
Et qui a rendu célèbre l'instrument.
Et la viole. Absolument. Mais avoir en plus Pascal Quignard, revanche...
C'était du luxe.
Il fallait pas rater l'occasion, parce que ça ne se représentera pas de si tôt. On va rappeler qu'initialement, ce concert devait être donné à Saint-Pierre-des-Cuisines.
Voilà.
Et puis devant l'afflux de demandes et l'obligation de refuser des gens, ils ont pu trouver une solution, les Arts Renaissance ont pu trouver une solution avec le Théâtre de la Cité, qui est plus du double même de la contenance de la jauge de Saint-Pierre-des-Cuisines. Donc c'est une salle qui peut accueillir presque 900 personnes. Et je crois que c'était quasi plein.
C'était plein, absolument. Mais ils l'auraient donné à la Halograin, hein, s'ils avaient pu. La Halograin aurait été pleine aussi, hein, donc tout va bien.
La Halograin, je ne sais pas ce qu'il y a 2000 places tout de même, mais au théâtre du Capitole, je pense qu'ils auraient rempli.
Mais il y a eu des gens qui sont restés à la porte.
Il y en a qui ont dû se présenter au dernier moment, malheureusement. Oui. Voilà. La pièce qui ouvrait ce concert est célèbre, vous l'avez rappelé, Serge Chosy, c'est la Marche pour la cérémonie des Turcs, extraite de la suite Le Bourgeois Gentilhomme, composée par Jean-Baptiste Lully, que l'on écoute maintenant dans une version du Concert des Nations, dirigée par Jordi Savall. Thank you. La marche pour la cérémonie des Turcs, extraite de la suite, le bourgeois gentilhomme de Jean-Baptiste Lully, puis à l'enchaînement qui suit, dans une version du Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall. Voilà, la saison des Arts Renaissants 22-23 est terminée. Un autre grand événement a eu lieu quelques jours plus tard, vendredi dernier, le 5 mai à la Halle au Grain, où le chef américain Joseph Svensson a dirigé l'Orchestre National du Capitole dans un programme qui avait été sous-titré « L'Odyssée du Ring ». Serge était présent, bien sûr. Il s'agissait en fait d'une sorte de condensé des quatre opéras du fameux cycle composé par Richard Wagner, avec des extraits tous choisis par Joseph Svensson. Le pari était ambitieux et même audacieux. Est-ce qu'il a été tenu, Serge ?
Alors, sur le plan de l'œuvre, oui, effectivement, l'œuvre convainc. Parce qu'il s'agissait tout de même d'un défi incroyable. Concentrer à peu près 16 heures de musique en 2h30. Avec 3 chanteurs quand même, pas simplement l'orchestre. Et donc, il fallait faire un bon choix des pièces chantées, des pièces
orchestrales,
purement symphoniques. Et alors, ce travail-là, Joseph Svensson a déclaré qu'il l'avait effectué pendant le confinement dû à l'épidémie, à la pandémie. Alors, c'est très intéressant parce que ce que l'on peut, globalement et synthétiquement, on peut trouver qu'effectivement, d'abord, le choix des extraits était excellent, les liens entre les extraits étaient très bien faits, et tout était résumé à la fois avec intelligence et sensibilité. Et donc, c'était vraiment un beau travail qu'a réalisé ce chef, qui est un chef très particulier, hein, un chef qui est un peu ailleurs chaque fois, hein, et qui dirige beaucoup Mahler en particulier. Et donc,
qui est lui-même un grand violoniste.
Et qui était rappeler. Un grand violoniste, oui, qui a un peu abandonné sa carrière de violoniste pour celle de chef d'orchestre. Et donc, nous avons eu droit, en deux parties, il y a eu un seul entracte, à la saga wagnérienne de l'Anneau du Nibelung, avec le début de l'œuvre, bien c'est le début de l'Or du Rhin, avec ce fameux prélude incroyable, le drame qui naît des profondeurs du Rhin, et le tout s'achevant par la scène finale du Crépuscule des Dieux, qui était chantée dans son intégralité par Christiane Libor, qui était la soprano ici. Elle chantait à la fois Sieglind lorsqu'il s'agissait de la Valkyrie,
et Brunhilde.
Et Brunhilde lorsqu'il s'agissait à la fois de Siegfried et du Crépuscule des Dieux. Le ténor était Christian Elsner, un ténor à la voix grave, plutôt grave, qui a eu un peu de mal au début, avec quelques aigus un peu bas peut-être, mais qui s'est échauffé au fur et à mesure de la soirée. Et puis donc, une basse alors, qui finalement chantait à la fois un petit bout de Wotan et puis un petit extrait de Hagen dans le Crépuscule des Dieux. Alors ça, c'était vraiment particulier. Cette basse, en fait, c'est un Strasbourgeois qui s'appelle, ou Alsacien en tout cas, qui s'appelle Damien Gastel. Donc voilà les 3 chanteurs qui ont participer à ce concert. Alors, le petit regret que j'ai eu, c'était un problème d'équilibre. Alors, on sait que Richard Wagner avait conçu l'architecture de son théâtre des festivals, comme il l'appelle, à Bayreuth, avec une fosse qui s'enfonce très profondément sous la scène, qui est couverte par un abat-son, et tout ça, c'est simplement pour essayer d'atténuer, de donner leur chance aux chanteurs.
Pour que le chanteur puisse passer par-dessus.
Pour qu'il passe par-dessus. Et là, évidemment, c'était pas le cas, puisque l'orchestre à la Halle au Grain, il est à découvert complètement. Et là, on a assisté quand même à une domination parfois excessive des cuivres. Il faut le reconnaître, au détriment souvent des cordes. Hein. Et puis des chanteurs. Il fallait vraiment que les chanteurs aient un volume vocal et une projection un peu exceptionnelle. Alors, on a eu donc un résumé de l'Or du Rhin. Là, il n'y avait pas les voix.
Oui, alors, il faut rappeler le cycle du...
Parce que
tout le monde ne connaît pas forcément.
Bien sûr.
Il y a ce qu'on appelle le prologue, c'est l'Or du Rhin.
Prologue, voilà.
Il y a 3 journées ensuite. Première journée, la Valkyrie. Deuxième journée, Siegfried. Et enfin, 3e journée, le crépuscule des dieux.
Voilà. Qui lui-même est composé d'un prélude et de 3 actes. Bon, c'est vraiment... Et c'est de loin le plus long. Et ça a été de loin le plus développé, hein, puisque l'Or du Rhin, donc, il n'y avait pas les voix. Et il a enchaîné, alors de manière très astucieuse, la fin de l'Or du Rhin avec la fuite de Siegmund, qui est le prélude de la Valkyrie, du premier acte. C'était très bien fait, et finalement, les tonalités s'accordent très bien. Bon, c'est un grand musicien, hein, Joseph Svensson, pas de problème ici. Et donc, on a eu quelques extraits du premier acte, avec dans Sieglinde, Christian Libor, donc la soprano, dans Siegmund, Christian Elsner. Et puis ensuite, il y a eu alors un résumé du deuxième acte, vraiment assez ramassé, hein, et puis un troisième acte qui s'ouvre avec la fameuse chevauchée des Valkyries. Et là, chapeau à Christiane Libor, qui a chanté les 8 Valkyries en quelque sorte. Pas quand elles chantent ensemble, évidemment, et qui n'a pas hésité à reprendre les cris de la Valkyrie, les fameux cris de la Valkyrie, qui en fait figurent au deuxième acte, mais elle ne les a pas chantés au deuxième acte. Et elle les a chantées au milieu de la chevauchée, ce qui est écrit par Wagner, évidemment. Et donc, énergie et courage à elle, vraiment, d'avoir pu effectuer
cette... C'est une vraie grande chanteuse wagnérienne.
Ah oui, tout à fait. Elle a tout à fait le timbre, la projection...
Et puis l'expérience.
Et l'expérience, voilà. Alors, l'opéra Siegfried a été assez ramassé là aussi, assez résumé, et avec quand même un passage avec les murmures de la forêt, hein, qui est un passage d'une grande poésie. Et puis l'évocation du dragon Fafner
oui.
qui est là pour impressionner. Et puis on a eu quand même droit au réveil de Brunhilde. Et là donc, elle endossait ce nouveau rôle pour elle. Après Sieglind, elle chantait Brunhilde. Et le crépuscule des dieux, alors qui conclut un peu l'Odyssée. Ah bah, de loin, c'était le plus développé des quatre. Hein. Et donc, on a eu droit à l'intégralité du duo initial, qui fait partie du prélude.
Le duo d'amour. Ouais.
Le duo d'amour entre Brunhilde et Siegfried, alors, qui s'est conclu par un impressionnant contrude de la soprano. Hein. Pas du ténor, d'ailleurs, il n'est pas écrit pour le ténor. Hein. Et donc, impressionnant, tout à fait. On a eu droit aussi, et ça, c'était une belle idée, aux deux interludes orchestraux du Crépuscule des Dieux, le voyage de Siegfried sur le Rhin, et la très dramatique marche funèbre, évidemment. Alors là, il faut féliciter les musiciens solistes de l'orchestre, parce qu'il y a des véritables tuiles à jouer pour eux, hein, aussi bien pour le cor que pour la trompette, que pour le trombone, et puis la flûte, le hautbois, le cor anglais, qui a des déclamations très belles. Et donc, tout était magnifiquement fait. Alors, il y a eu quand même une participation du chœur masculin du Capitole, puisqu'il y a eu le fameux dialogue haineux entre Hagen et les guerriers, donc, des Gibichung, et non, on a eu droit à ça, et le voyage, ce voyage tétralogique, il s'est conclu par l'intégrale de la scène finale, qui est quand même un sacré morceau, l'immolation de Brunhilde, et là, elle a vraiment réalisé une véritable performance à la suite, après tout ce qu'elle a fait jusque-là, hein. Donc c'était une lutte avec une énergie incroyable contre un orchestre déchaîné, évidemment, mais elle a réussi quand même à le passer. Mais enfin, l'orchestre était tellement déchaîné qu'il y a quelques mots prononcés et chantés par Hagen. Là, on ne les a même pas entendus, bien qu'on l'a vu, Hagen, qui était ramené un peu à l'état de mime, en l'occurrence, pour ce final. Alors, bon, on peut regretter ce déséquilibre, hein, entre cuivre et cordes d'une part, et entre orchestre et voix d'autre part, mais il faut admirer le choix des tempi, l'énergie qui anime la direction de Joseph Swensen, son sens des contrastes, son lyrisme, parfois vraiment touchant, parfois désespéré, et donc sa direction passionnée. Alors, presque un peu trop par moment, mais c'était impressionnant et ça a eu un immense succès. Vraiment, le public, il y a eu une ovation partiellement debout du public de la Halle aux Grains ce soir-là, qui avait rempli la Halle aux Grains d'ailleurs. C'était
oui, ce qui est une performance, parce qu'on était ouais. La deuxième semaine des vacances.
Oui, exactement.
De printemps.
Eh bien, la Halle aux Grains était bien pleine. Hein.
Mais il y a beaucoup de Wagneriens à Toulouse.
Hein. Ah oui, ah ben oui.
Il y a même un cercle Wagner, et je pense qu'ils étaient tous dans la salle.
Bien sûr, bien sûr.
Et il y avait donc au sommaire de cette soirée l'inévitable chevauchée des Valkyries qu'il était inimaginable, je pense, de ne pas programmer ce soir-là. Voici une version de ce morceau de bravoure parmi les plus connus du grand public, dirigé par Herbert von Karajan à la tête du Berliner Philharmoniker. La chevauchée des Valkyries dans une version du Berliner Philharmoniker dirigée par Herbert von Karajan, avec laquelle nous concluons cette première partie d'émission. Petite virgule musicale comme d'habitude et l'on se retrouve en compagnie de Serge Chosy pour la partie agenda de ce numéro. Restez bien à l'écoute de Radio Présence, à tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
Et l'agenda de la semaine est très concentré sur le week-end. Nous allons le commencer encore avec l'Orchestre National du Capitole, puisque le prochain rendez-vous du cycle Happy Hour est prévu ce samedi 13 mai à 18h à la Halle aux Grains. Et ça va être un moment particulier, un peu inattendu même, puisque l'instrument que met à l'honneur ce concert n'est autre que le bandoneon, Serge.
Mais oui, le bandoneon joué par William Sabatier, à la direction et au violon, Alexis Cardenas, donc le chef qui vient diriger l'orchestre.
Je crois que c'est une première pour les deux d'ailleurs.
Ah oui, 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 absolument. Alors je ne sais pas quel va être l'effectif de l'orchestre. Ça ne va pas être un orchestre
non, pléthorique, non,
c'est comme sûr. La tétralogie,
c'est pas Wagner,
évidemment.
Non.
Et donc ils vont rendre un hommage à Piazzolla. Et d'ailleurs, le concert s'intitule « Une heure avec Piazzolla ». Une heure, une durée.
Happy hour.
Voilà, happy hour, vraiment. Et donc là, on va essayer de dresser un portrait du maître du tango, évidemment, avec des œuvres. Alors, des œuvres multiples. Ça commence par Michelangelo Sietenta avec « Tristezza de un doblea ». Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond. Milonga loca, Tango 6, Adios Nonino, bon, etc. Des tas de pièces, à l'exception des plus célèbres, finalement.
Et oui, Adios Nonino, ça oui, ça c'est célèbre, c'est très souvent joué.
Oui,
c'était
oui,
la pièce
oui.
qu'avait composée Piazzolla à l'occasion de la mort de son père, qui était surnommé Nonino. Mais effectivement, il n'y a ni Oblivion, ni Libertango.
Et non. Peut-être...
En bis.
Peut-être qu'en bis... nous aurons droit à l'un de ces tubes.
Oui, alors il y a quand même des classiques, hein,
puisqu'il y a
Milonga del Angel, La Muerte del Angel, Invierno Porteño. C'est quand même des œuvres qu'on entend souvent lorsqu'il s'agit de Piazzolla, qui, depuis quelques années, est beaucoup joué. On a célébré son centenaire en 2021, si je ne m'abuse, mais il est régulièrement joué à Toulouse.
Oui, exactement. Oui.
Et pas seulement par des gens qui jouent de l'accordéon, bandoneon. Le bandoneon étant son instrument, c'était vraiment son instrument et celui avec lequel il composait. En tout cas, ça sera l'occasion de découvrir William Sabatier, qui semble être un des grands spécialistes du bandoneon en France. Je crois qu'il est installé quelque part en Côte d'Or, du côté de Dijon. Et puis de découvrir ce chef, parce que je crois que c'est une première, Alexis Cardenas. Là,
je ne connais pas vraiment. Donc,
alors, peut-être
très bien.
Que c'est un spécialiste de la musique de Piazzolla.
Peut-être
c'est
bien.
C'est pas impossible. Ou alors, il se produit souvent avec William Sabatier. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'ils sont réunis ce soir-là. Donc c'est à 18h, hein, faut pas se tromper, les happy hours, c'est 18h à la Lougrin ce samedi 13 mai. Et pour vous donner un petit aperçu de ce programme, nous allons écouter William Sabatier qui interprète ici Esquallo, l'une des pièces d'Astor Piazzolla que vous pourrez entendre samedi à la Lougrin. Thank you. Esquallo, Escale d'Astor Piazzolla, interprété par William Sabatier, le bandoneoniste, est donc en concert samedi à 18h avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dirigé par le chef et violoniste vénézuélien Alexis Cardenas, dans le cadre du cycle Happy Hour de l'orchestre. Et puis le lendemain, deux concerts à noter dans votre agenda, l'après-midi du dimanche 14 mai donc. Tout d'abord, celui des Passions de Montauban à 15h à la chapelle Sainte-Anne de Toulouse sous la direction du fondateur de l'orchestre Jean-Marc Andrieux. Le programme a été intitulé Stabat Mater, Bach ou Pergolèse, point d'interrogation. Serge va nous expliquer pourquoi.
Et oui, alors d'abord, il faut rappeler que ce concert est donné en partenariat avec le Goethe-Institut de Toulouse et dans le cadre de la quinzaine franco-allemande d'Occitanie. Donc, il y a de la musique allemande là-dedans et il n'y aura que de la musique allemande, d'ailleurs, au cours de ce concert. Et donc, pourquoi évoquer à la fois Pergolèse et Jean-Sébastien Bach? Eh bien, c'est tout simplement parce que Bach a réalisé une transcription du célèbre Stabat Mater de Pergolèse, qui est vraiment le plus célèbre de tous les Stabat Mater connus de l'époque baroque. Hein. Mais il n'y aura pas que ça. Le concert va s'achever sur le psaume 51, qui est cette transcription en quelque sorte, et qui se titre « Tilge Höchsta meine Sünden », ou « Il question des péchés ». Et donc c'est d'après le Stabat Mater de Pergolèse, et c'est écrit également pour deux voix, cordes et basse continue. Jean-Sébastien Bach, bon, on le sait, il a beaucoup transcrit énormément les œuvres de ses contemporains.
Notamment Vivaldi.
Et Vivaldi, alors...
À tour de bras,
oui, exactement. Et avec beaucoup de talent, évidemment. Ah, okay. Mais il n'y aura pas que cela, puisque pour débuter le concert, il y aura deux airs. Un air de soprano, Wie lieblich klingt es in der Ohren, extrait de la cantate BWV 33, qui sera chanté par une soprano que l'on connaît, que l'on apprécie beaucoup,
Clémence Garcia. Qui est installée à Toulouse, Clémence Garcia, qui est passée par le conservatoire de Toulouse.
Exactement. Et puis un air pour alto, Wie furchtsam wankten meine Schritte, qui est extrait là, cette fois, de la cantate BWV 133, et qui sera chanté par l'alto Lucille Renz. Et ensuite, nous entendrons un concerto pour flûte à bec en do majeur de Telemann, avec pour soliste, évidemment, Jean-Marc Andrieux, qui est le virtuose de la flûte à bec que l'on connaît. Et donc, il y aura ce concerto qui sera donné au cœur du concert, qui s'achèvera donc par le psaume 51, BWV 1083, d'après le Stabat Mater de Pergolèse. Donc, on aura droit à cette distribution de pièces de musique baroque allemande, vraiment surtout du Bach, mais avec aussi du Telemann.
Oui, alors pour la petite histoire, qui est un peu la grande aussi, de cette transcription, je ne sais même pas s'il faut l'appeler comme ça, ouais, du Stabat Mater de, ouais, Pergolèse en psaume 51 de Jean-Sébastien Bach, il faut rappeler que le manuscrit n'a été découvert. Oui, c'est découvert, c'est même pas redécouvert, en 1946.
Et oui.
Donc c'est une œuvre qu'on ne connaît que depuis peu, finalement, près d'un siècle après la mort de Jean-Sébastien Bach. On pourrait dire que c'est un génie qui s'approprie l'œuvre originale d'un autre génie.
Oui.
C'est du génie, c'est au carré.
Oui.
S'agissant de Bach et de Pergolèse, on peut dire ça. Alors, on va faire, non pas un test comparatif, ça serait beaucoup dire, mais on va pouvoir comparer les deux versions, celle d'origine du Stabat Mater de Pergolèse et le psaume 51 de Jean-Sébastien Bach. Voici d'abord le début de l'œuvre de Pergolèse, Stabat Mater Dolorosa, tout le monde connaît, interprété par les Passions de Montauban, dirigé par Jean-Marc Andrieux, et les deux solistes étaient Magali Léger et Paulin Bungen.
Thank you.
Stabat Mater Dolorosa, donc début du Stabat Mater de Pergolèse, interprété par les Passions de Montauban, qui accompagnent ici Magali Léger et Paulin Bungen dans cette version. Voici maintenant le début du psaume 51 de Bach, Tilge Ochter, Meine Sünden. Et là, il s'agit d'une version du Banquet Céleste qui accompagne la soprano Emmanuel Denegri et le contre-ténor Damien Guillon. Voilà, le début du psaume 51 de Jean-Sébastien Bach, Tilge Ochter, Meine Sünden, version du Banquet Céleste qui accompagne donc Emmanuel Denegri et Damien Guillon. Et pour découvrir la version des Passions de Montauban avec Clémence Garcia et Lucille Rens, c'est donc à la chapelle Sainte-Anne qu'il faut vous rendre. Ce dimanche 14 mai à 15h, un petit commentaire sur ce qu'on a entendu entre les deux versions. Bon, évidemment, c'est très très proche.
Elles sont très
proches. La grande différence, c'est qu'il y en a une qui est en latin et l'autre qui est en allemand.
Exactement, mais il y a même une différence dans l'orchestration,
oui,
évidemment.
Il y a des variantes.
Bon, mais c'est vraiment très proche. Oui, effectivement.
Et c'est magnifique dans les deux cas.
Ah oui.
Juste après, ce même dimanche 14 mai à 17h, rendez-vous à une autre chapelle toulousaine, la superbe chapelle des Carmélites, pour le dernier concert de la saison 2022-2023 de Toulouse Guitare. C'est le guitariste Rémi Jousselme qui va s'y produire avec un programme joliment intitulé « Échos intimes ». Et ça va être très hispanisant, Serge.
Ah oui, absolument. Alors, Rémi Jousselme, il est né à Marseille. Hein, donc, c'est un guitariste français. qui va jouer du Rodrigo, du Turina, du Ravel, quand même, avec la pavane pour une infanterie.
Mais du Ravel d'inspiration espagnole, si on
exactement,
peut dire.
Exactement, mais oui, le Pays Basque.
Bon, oui, puis là, pavane cheval, pour un infante défunte, l'infante, c'est l'Espagne. Hein,
et de oui, toute oui, façon, oui, bien bon, sûr. Voilà. Puis, le pièce de Fernando sort. Il y a quand même du Jacques Dufly. Bon.
Oui, c'est un petit peu franco.
Un portrait, espagnol. La Forqueraie. Et puis Athanas Urkouzounov. Alors, avec une pièce, donc...
C'est récent, là, puisqu'on les a entendus à Toulouse Guitare.
Exactement, oui. Hein, absolument.
Qui est d'origine bulgare, hein. Il me semble. Voilà.
Et puis, ça finira avec un prélude de Federico Mompao. Donc, voilà, un beau programme, intéressant et original, hein, on peut dire, hein, et qui sera précédé...
Eh oui, comme d'habitude.
Comme d'habitude, et ça, il faut vraiment rendre justice... aux organisateurs et puis surtout à Thibaut Garcia qui en est l'initiateur et l'inventeur en quelque sorte. La première partie sera donnée par un jeune élève, en l'occurrence il a 17 ans, il s'appelle Guillaume Louvet et donc c'est un musicien qui vraiment à cet âge très jeune de 17 ans qui a déjà obtenu des récompenses impressionnantes.
Il a gagné des concours déjà.
Des concours,
il vient
voilà.
D'obtenir, de réussir le concours d'entrée prestigieux, s'il en est, du CNSM de Paris, Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il est passé avant, par le Conservatoire à rayonnement régional de Toulouse, où il est l'élève de Benoît Albert, qui est un des programmateurs de Toulouse Guitare.
Exactement.
Et puis, il a commencé à Pamiers, donc on va saluer les Ariégeois, au passage, parce que je crois qu'il est originaire de ce département, Guillaume Louvet, voilà. On lui a mis une guitare dans les mains à l'âge de 7 ans, et puis depuis, il ne l'a jamais lâchée, cette guitare. Et il accomplit un formidable parcours qui devrait, je pense, le mener très très loin. Alors Rémi Joussel, vous n'avez pas dit, mais il enseigne à l'ISDAT.
C'est un des professeurs de
la classe de guitare de l'ISDAT. Dernier extrait musical de cette émission avec la transcription que Rémi Joussel m'a réalisée de Pavane pour une infante défunte, composée à l'origine pour le piano par Maurice Ravel. Pavane pour une infante défunte, pièce de Maurice Ravel, transcrite et interprétée à la guitare par Rémi Jousselme, un musicien que je vous invite à retrouver dimanche 14 mai à 17h à la Chapelle des Carmélites pour le dernier concert de la saison Toulouse Guitare. Première partie avec le jeune guitariste Guillaume Louvet. La billetterie est en ligne et accessible à l'adresse www.toulouseguitare.fr. Auparavant, le même jour, à 15h, à la chapelle Sainte-Anne de Toulouse, concert de l'Orchestre des Passions de Montauban, sous la direction de Jean-Marc Andrieux, avec la soprano Clémence Garcia et l'alto Lucille Renz. Il y a entre autres au programme le psaume 51 de Jean-Sébastien Bach. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.les-passions.fr. Et enfin, je rappelle le concert de l'Orchestre National du Capitole à la Halle aux Grains, samedi 13 mai à 18h avec le bandoneoniste William Sabatier pour un programme entièrement dédié à Astor Piazzolla. C'est un concert du cycle Happy Hour pour lequel vous pouvez réserver et acheter vos places en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Tous mes remerciements à Serge Chosy qui a co-animé ce numéro à mes côtés et à Christophe Aubry qui l'a réalisé. Le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui comme d'habitude sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous, chers auditeurs, de rester fidèles à cette émission. Très bonne semaine musicale à tous.